Voilà, je suis Christine Simon et bienvenue donc à Radio Grand Ciel. Alors, pour la saison 21-22, j'ai l'honneur et le plaisir de vous proposer une nouvelle émission qui s'intitule « Les rites et les pratiques anciennes de l'alimentation ». J'espère que les différents sujets que je vous présenterai vous plairont. Je parlerai de nourriture des civilisations anciennes, comme par exemple celle de la Mésopotamie, de la Rome antique, de la Grèce et de bien d'autres civilisations plus ou moins connues. Il n'y a rien de plus quotidien que le manger et le boire, et ce sont là des besoins fondamentaux de tout homme. Chaque société les a donc organisés depuis la nuit des temps selon des constances qui lui sont propres, c'est-à-dire le choix délibéré des denrées, les procédés traditionnels efficaces pour la transformation des victuailles et pour les rendre assimilables et goûteuses. Comme toute civilisation ancienne, l'activité économique principale en Mésopotamie antique est bien sûr l'agriculture. Soumis à des contraintes fortes, notamment l'aridité et les sols pauvres, les paysans mésopotamiens ont développé bien sûr des stratégies efficaces permettant de soutenir le développement des premiers états, des premières villes, puis des premiers empires connus, bien sûr sous l'égide des institutions qui dominent l'économie, à savoir les palais royaux et provinciaux, les temples et les domaines des élites. Elle repose avant tout sur la culture des céréales, l'orge surtout, et l'élevage ovin, mais aussi sur les légumineuses ou encore le palmier dattier qui se situe au centre, au sud, et la vigne au nord. On distinguera deux agricultures mésopotamiennes correspondant à deux grands domaines écologiques. Alors tout d'abord, on a l'agriculture du sud mésopotamienne ou basse Mésopotamie avec les pays de Sumer et d'Akkad qui deviendront plus tard la Babylonie. Cette agriculture, soumise à de plus fortes contraintes en raison des précipitations quasiment inexistantes, repose sur une irrigation à grande échelle et a réussi à atteindre des rendements suffisamment élevés. Ensuite, nous avons la haute Mésopotamie, c'est-à-dire le nord, dont les pays intégrés dans la Syrie disposent de précipitations suffisantes pour pratiquer une agriculture sèche qui, la plupart du temps, se caractérise par un poids moins important d'irrigation des grands domaines institutionnels et des rendements généralement plus faibles. Vous allez me dire oui, mais c'est un sujet bien connu. Et ces différents besoins que sont le manger et le boire des civilisations anciennes, comme de nos civilisations actuelles d'ailleurs, ont très souvent été abordés dans de très riches documentations textuelles émanant des palais royaux et des temples.
Radio Grand Ciel, la radio qui rapproche les hommes.
Je vais vous parler de l'alimentation des élites en Mésopotamie. Les rois et les dieux, ou plus exactement les effigies et les représentations des dieux, rassemblent la très grande majorité des données qui nous permettent d'étudier les processus alimentaires en Mésopotamie. Il existe naturellement des élites sociales dont l'alimentation n'est pas la même que celle du menu peuple mésopotamien. Mais pour ce que l'on peut en percevoir, cette alimentation des riches marchands d'Assur ou de Larsa au début du deuxième millénaire et celle de la noblesse médio-assyrienne ou des notables urbains de Babylone au premier millénaire sont la reprise d'un fonctionnement qui est normalement à l'œuvre dans le palais royal et dans les temples. Ce sont les grands traits propres à chacun de ces deux mondes en matière de pratique alimentaire qu'il convient de présenter d'abord, c'est-à-dire composition des repas, service et manière de table, pour étudier ensuite ce qui est commun et ce qui distingue l'alimentation du roi et celle des dieux. Comme je viens de le dire tout à l'heure, deux corpus de textes documentent les repas royaux. Il y a les archives de Marie en Syrie orientale du début du deuxième millénaire qui illustrent la vie d'un pays, d'un palais mésopotamien de la période babylonienne ancienne, en constituent bien sûr le premier corpus. Celles qui ont été retrouvées dans les palais du grand empire néo-assyrien constitué en Mésopotamie septentrionale au 8e et 7e siècle avant Jésus-Christ forment, eux, le second corpus. Cette documentation textuelle royale est très diverse puisqu'elle comporte aussi bien des listes d'ingrédients utilisés pour le repas royal, soit environ 338 litres de produits céréaliers, 12 litres de bière sucrée, c'est-à-dire le repas du roi du 9 du mois Eburum, c'est-à-dire qui concerne un extrait d'un repas du roi Amari au XVIIIe siècle. Ces récits de banquets grandioses sont célèbres, puisqu'on les relève sur la célèbre stèle du banquet du roi Assur-Nasirpal, qui date, elle, du 9e siècle. Dans celle du banquet d'Assur-Nasirpal, numéro 2, il est mentionné près de 70 000 invités et des dizaines de milliers d'aliments. Quand Assur-Nasirpal, roi d'Assyrie, consacre à Kélu le palais qui fait sa joie, il invite le dieu Assur, le grand seigneur, à y entrer, ainsi que les dieux de tout le pays. On a compté 100 bœufs gras, 1000 veaux émoutés et moutons engraissés à l'étable, 1400 moutons de pâture appartenant à la déesse Ishtar, sa dame, la dame du roi, 200 bœufs appartenant à cette même déesse, des moutons, des agneaux de printemps, des chevreuils, des cerfs, des petits et grands oiseaux, grands canards, canards, oies, oiseaux, pigeons, tourterelles, boissons, gerboises, des milliers d'œufs, des galettes de pain, des cruches de bière, des outres de vin, des branches de graines de sésame, des caisses de verdure, des récipients d'huile, de malt, des fines herbes, de la salicorne, de l'orge séchée, de la bière, des grenades, des raisins, des fruits divers, des pistaches. Suit ainsi une longue liste de condiments très divers. À cette occasion, ce sont 47 074 personnes des deux sexes qui sont invitées de toutes les parties du pays. Il y a 5000 dignitaires et envoyés spéciaux des pays de Suu, Indanu, Patina, Ati, Tyr, Sidon, Gurgum, Manidu, Ubuscu, Gilzanu, Kumu et Musazir, environ 16 000 habitants de la ville de Kalu et 1 500 employés du palais. Presque environ 70 000 personnes, qui rassemblent bien sûr les gens de tous les autres pays, sont également invités et nourris pendant 10 jours. L'eau est ainsi fournie par leurs ablutions et l'huile pour les onctions.
Parça. Шаттық майрам, шаттық майрам, бала жұтту ар күнің, ар күнің, ар күнің. Асендене қыч күч етіп, қыч ұлдап, ұнут қалған обындырдың қайрығын, қайрып жатқан қарт музыкан төңдені.
Radio Grand Ciel.
D'un millénaire à l'autre, ni les ingrédients, ni le protocole suivi, ni l'association du raffinement et du plantureux ne changent pas beaucoup. Les moyens accrus dont disposent les rois assyriens font simplement que de Hammurabi de Babylone, c'est-à-dire de 1792 à 1750, ou de Zimri-Lim de Marie à Assur-Nazir-Pal d'Assyrie, on passe de l'abandon au pléthorique. À Marie, les banquets organisés par le roi comptent en moyenne entre une trentaine et une soixantaine de convives qui se déroulent souvent en plein air dans l'une des grandes cours du palais. Une partie de l'assistance est assise par terre, tandis que ceux que l'on veut honorer ont droit à un siège. Ce sont les Washib, Kusim, dignitaires placés à proximité du roi. Les banquets réunissent le plus souvent une assistance, soit militaire, soit diplomatique. Une fois que chacun a pris sa place selon son rang, les serviteurs passent et sont chargés de présenter l'eau pour se laver les mains. Chacun des hôtes reçoit alors une fiole d'huile parfumée dont il soint, hein, on va le comprendre dans le sens de l'application, au début et à la fin du repas. Ils reçoivent ensuite un ensemble de victuailles disproportionnées à leur nombre et à leur hiérarchie, qu'ils se partagent. Ils sont servis en viande grillée et en ragoût, accompagné de galettes de pain et de plats de légumes, de semoule et de grains concassés. Le dessert est le plus souvent composé de fruits, et surtout de pâtisseries sucrées au miel. Ces gâteaux peuvent être présentés sous forme moulée. Plusieurs moules ont été retrouvés dans les cuisines du palais. Il arrive que des produits plus rares agrémentent le repas, c'est-à-dire des poissons de rivière, des œufs d'Autriche, des champignons du désert. Cette émission est terminée pour l'instant. J'espère qu'elle vous aura plus et je vous retrouve lors d'une prochaine émission sur les rites et les pratiques anciennes de l'alimentation. Je vous remercie et à très bientôt. Au revoir.
Canı, sen kimin canısın canı?